nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Et toutes les femmes et les hommes qui ont perdu leur conjoint veulent faire la même chose et demandent à la clinique Jeune-Tout Pontois de le faire. Il y a foule de demandes. La clinique va ouvrir un bâtiment spécialisé pour ça, le service orphique. Maurice se frotte les mains, il va gagner gros. Ce sont surtout des femmes du monde qui font la demande. Certaines personnes veulent le faire pour savoir comment c'est l'au-delà. On fait faire des dossiers aux demandeurs. On a dit que ça dépendait aussi de la conservation du candidat mort. Pour ce qui est des hommes qui veulent leur femme, on peut leur mettre leur fœtus dans la cuisse. Ça s'est déjà fait, et on a déjà parlé depuis les années 1980, voire Paris Match de cette époque. L'opération orphique coûte très cher et n'est pas remboursée à 100%. Tout dépend de l'accouchement. C'est très long car ça dépend de ce que les femmes veulent. Puis pour avoir le fœtus du mari, il faut qu'elle soit enceinte artificiellement, naturellement, et qu'elle garde la chose tant qu'il se développe suffisamment pour être un fœtus. Ensuite, une fois qu'il est suffisamment formé, on l'échange. Bâtiment orphique, une salle d'attente, calme, cabine de consultation, de préparation de dossiers, cabinet médecin généraliste, et pour les femmes, il y a des radio-analystes. Il y a des chambres de patientes, des salles de donneurs de sperme.
Mm-hmm. Non.
Des sols de mise de sperme. Des sols d'accouchement.
Madame la salle, vous êtes bien sûr de vouloir. Madame la salle, vous êtes bien sûr de vouloir.
Salle de dépôt de cadavres, salle de découpe et préparation, salle de réfrigération, salle d'échange de fœtus. L'autre fœtus qui est conservé dans de la glace, il peut servir. Le traitement orphique est breveté jeune tout pontois. Et l'on vient du monde entier se faire faire ce traitement. Une pub est présentée à la télévision et dans les cinémas. Un enterrement. Vite. Chez Orphique.
Madame la salle, vous êtes bien sûr de vouloir.
Et la vie continue. Orphique. Pontois Genetou.
Obtenir ce délicieux café, il n'est pas nécessaire d'être jongleur. Il suffit tout simplement de le préparer avec du café Nizière.
Si le café Nizière possède vraiment l'arôme le plus fin, c'est qu'il est obtenu grâce aux meilleures sélections, que son emballage est absolument automatique, sans aucune manipulation ni intervention quelconque. Quel que soit le mélange que vous désirez, choisissez-le dans la gamme sélectionnée des cafés Nizière. Café Nizière, celui que l'on préfère.
Bonbon Gilbert,
tonton,
bonbon Gilbert,
bonbon Gilbert.
Que vous soyez morose, que vous soyez joyeux, que vous soyez distrait,
bonbon, bonbon Gilbert.
Que vous ayez des roses ou bien des tics nerveux, le goût du décolleté,
bonbon, bonbon Gilbert.
Que vous soyez danseur,
ou bien restez gamin,
ou même conservateur,
bonbon, bonbon Gilbert.
Que vous aimiez la pêche ou bien les animaux, que vous aimiez vos aises,
bonbon, bonbon Gilbert.
Bonbon Gilbert.
Bonbon
Gilbert. Bonbon Gilbert.
Bonbon.
Bonbon Gilbert.
Bonbon Gilbert.
Balzac 0001. Jeu mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.
Jeanne attend l'arrivée de Frédéric. Elle est seule dans cette grande maison et elle ne supporte plus. Les domestiques sont partis. Tout semble en friche. C'est triste. À 10h, l'on sonne au portail. Elle va répondre à l'interphone. Oui, c'est moi, Frédéric. J'ouvre. Elle est heureuse et en même temps, elle a peur. Il sonne à la porte. Elle ouvre. Il est avec un domestique. Elle lui dit « Entrez !» Frédéric entre. Il embrasse Jeanne. Elle lui dit « J'étais chez Ephraim Blanc. Des gens très gentils. Ils m'ont offert des tas de choses pour mon départ. » Jeanne lui dit « C'est très bien. » Elle dit au domestique, « Laissez les paquets à terre. Merci. Vous remercierez votre maîtresse. » Elle lui tend sa carte pour qu'il puisse prendre un pourboire. Elle prend l'écran qu'il lui donne et elle met une somme. « Merci, madame. » Et il s'en retourne. Jeanne demande, « Tu es heureux de me revoir ?» Il lui dit, « Oui, beaucoup. Tu m'as manqué. » Elle lui dit, « J'ai pas trop changé. Non, tu es toujours aussi belle. » Et il l'embrasse. Il lui dit, « Je veux que tout soit comme avant. » Elle lui dit, « Moi aussi. Rien que nous deux, en tout cas. » Il lui demande, « Est-ce que je vais retourner à l'école ?» Elle lui dit, « Oui, bien sûr. Tu es jeune et tu dois avoir un diplôme. » Mais pas ici. J'aimerais, c'est que, si tu es d'accord, bien entendu, qu'on aille ailleurs. J'en ai assez de cette maison, de ce quartier, tous ces commerçants qui nous ont attaqués. J'aimerais, c'est qu'on aille ailleurs, oui. J'ai renvoyé tous les domestiques. Il lui dit, tu as raison. Et nous irons où? Elle lui dit, je sais pas encore, peut-être à l'étranger. Mais avant, j'aimerais, c'est qu'on se retrouve, nous deux, il lui dit. Oui, elle lui demande, tu as faim? Oui, j'ai faim. Et ils se sont retrouvés. Jeanne reprend des forces. Elle a remercié les Francs Blancs et payé en remerciant l'avocat. Des jours passent. Un jour, elle reçoit une invitation à une soirée chez les Francs Blancs. Elle décide d'y aller avec Frédéric. Elle ira en robe du soir bleu roi. Longue, serrée avec de longues manches. Et un décolleté ravissant. Elle a fait faire un smoking pour Frédéric. La soirée passe en plein. Ça se passe dans la maison Framblin à Paris. Il y a tout le monde, car tout le monde sait que la femme du procès y sera. Du procès du siècle. Maître Dersin est là et fait le coq au milieu de ces dames. Il leur dit, le peuple a gagné un procès, c'est merveilleux. Toutes ces dames disent, oh, oui, c'est merveilleux, vive le peuple. Elles sont toutes mariées de gros industriels. Les maris laissent faire, ça les amuse. Et puis ça démontre qu'ils sont du parti de gauche. Donc ils ont le droit, c'est de faire du bénéfice et avoir du personnel sans que personne ne dise à redire quoi que ce soit. Lorsque j'en arrive avec Frédéric, tout le monde la regarde. On la trouve belle. Sublime, avec le malheur qu'elle a eu, et son mari, bien joli. Une vieille femme dit, oh, qu'il est bien. C'est bien d'avoir un mari comme ça. Qu'il est mignon. Charlotte va vers elle et lui dit, merci d'être venue. Merci. Frédéric dit, merci madame, pour tout ce que vous avez fait. Charlotte embrasse Frédéric. Jean dit, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Charlotte lui dit, mais ce n'était rien. Dersin va vers eux. Il est habillé d'un smoking jaune et a dessus une grande écharpe verte. Ses yeux sont légèrement maquillés. Il dit à Jean, voilà, madame, ma reine, madame, et son délicieux petit mari.
Et vent. La chaleur va
Jean lui dit, merci pour tout. Et la soirée se continue. On lui pose des questions sur son avenir. Jean leur dit, je ne sais pas. Je crois que j'ai quitté la France. Je ne sais pas encore. Il y a Pierre Max qui est là dans à la soirée.
J'ai envie d'être seul avec toi. Dans un petit chalet.
Il veut l'interviewer. Pour mon émission, à l'écoute du monde. Vous voulez bien ? Elle est un peu surprise de voir ce jeune homme tout maigre, habillé d'une gabardine, taché.
Ah, si.
Il tient à la main un espèce de truc des années 70 qui doit des gens interviewer. Il dit, j'ai pas d'argent pour payer un autre appareil, mais il enregistre bien, en mono, oui, en mono. Mais ça ne fait rien, ce qui compte, c'est l'interview. Attention, je vais mettre en route l'appareil. Je dois pas me tromper, pas oublier d'enlever la pause. Attention. 1, 2, 3. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Chers auditeurs de Radio Métropole, je suis dans cette soirée, la fabuleuse soirée du célèbre homme d'affaires Framblin. Il y a beaucoup de personnalités comme Frédéric Lefort, etc., etc. Mais la reine de cette fête, c'est bien entendu Madame Jeanne Rivoire, la célèbre femme qui a eu le courage, parce qu'il en faut, moi j'ai pas eu le courage de le faire, c'est de faire revivre son mari en la couchant. Et oui, c'est la nouvelle famille orphique, accoucher son mari mort et il revit. C'est vraiment formidable. vraiment fantastique. Je vais interviewer Madame Pivoire maintenant. Bonjour, madame. Bonsoir, monsieur. Vous n'êtes pas trop fatigué de votre accouchement et de votre procès où il y a eu un procès. Et oui, il y a eu un procès. Oui, bien sûr. Mais c'est bien avant. Mais c'est votre fils, là, non? Alors, comment allez-vous? Elle lui dit, je vais très bien. Je vous remercie. C'est grâce à tous mes amis que j'ai réussi. Oui, oui. Il y a eu des manifs dans le monde entier en faveur de cette dame. De gauche, bien sûr, mais des manifs tout de même. En fait, avec ce que l'on a. Et votre retour, comment ça s'est passé? Très bien, merci. Et les rapports avec les domestiques? Elle lui répond. Je les ai tous renvoyés. Il lui dit, vous avez bien fait. Ces gens n'avaient pas à dire des choses sur vous, sur votre vie privée. Moi-même, j'ai eu une bonne. Chez mes parents, lorsque j'étais petit. Mais elle nous aurait certainement eu, n'aurait jamais eu l'idée, c'est de dire des choses sur nous. La bonne était chez mes parents lorsque j'étais petit. Et oui, petit. Chez nous aussi, il y avait une bonne. Quelque chose. Mais elle me disait jamais rien sur notre vie privée. Parce qu'autrement, elle était renvoyée. Il y...
Tu viens?
Maintenant, tout le monde s'en fout. Et on dit n'importe quoi sur n'importe qui. C'est la gauche. C'est bien fait, madame. Et une fois... Frédéric, c'est votre mari, madame? Elle lui dit. Oui, il est près de moi. Pierre-Max le regarde et lui dit. Oh, qu'il est mignon, qu'il est joli. Mimi, Mimi. Il se penche pour l'embrasser, le jeune homme, et le prendre dans ses bras. Il pose sa tête sur son épaule, lui tend la main et lui dit. Tu es bien sage, mon Mimi. Tu es bien sage. Frédéric est tout rouge. Il ne sait comment se mettre. Enfin, Pierre-Max se retire. Il dit, eh bien, merci, mesdames. Merci, mesdemoiselles. Merci, messieurs.
La chaleur va faire couper.
Merci, madame.
C'est pas fait pour nous payer.
Et il ferme son appareil. Il se retire. La soirée se continue. Comme Frédéric ne sait pas danser, elle non plus ne danse pas. Elle est toujours bien entourée. On lui pose des tas de questions, à savoir si c'est pénible,
j'ai envie d'être seule avec
laborieux, et comment ça se passe, comment élever un mari aussi, etc. etc.
De la fumée sur le toit, comme dans les contes de fées.
Reste ici.
Non!
Puis, vers la fin de la soirée, elle dit au revoir aux francs blancs et les quitte. Ils rentrent chez eux vers les 4 heures du matin, épuisés. We'll be right back. Les jours passent. Ils se retrouvent et essayent de vivre normalement. Elle n'a pas repris de domestique depuis qu'elle les a chassés. La famille de Frédéric refuse de reconnaître Frédéric comme leur fils. Ils habitent en Normandie un petit château. La mère, une femme grande, sèche, habillée de noir depuis la mort de son fils. Son mari, un homme grand, gros, à cheveux blancs, habillés de noir. Ils sont au salon. Lui est dans un fauteuil, elle fait les 100 pas. En tournant sa montre en or pendentif, qui tient autour de son cou. Elle dit, osez dire que son fils est mon fils, alors que je l'ai accouché, élevé, vu grandir et nourri. Quelle honte! Son enfant n'est peut-être même pas de notre fils. Qu'est-ce que tu dis là? Il y a eu la preuve, les analyses, elle lui dit. Elles ne sont pas faillibles à 100%, même ton ADN. Et puis, ce n'est pas notre fils. Son mari lui dit, il a été conçu avec les éléments de ton fils, donc c'est ton fils. Pas pour moi. Son mari lui dit, pour moi non plus, mais elle est dans ses droits. Il y a eu un jugement. Et d'expertise. Elle a gagné. Elle lui dit, elle ne mettra jamais les pieds ici. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ici? Il dit, nous prendre nos biens. Il lui dit, elle n'en a pas besoin. Puisqu'un autre meurt, ils seront à eux. Qu'on le veuille ou non. Moi, je ne veux pas. Elle continue à marcher et lui dit, « Ah, si nous avions eu un deuxième enfant !» Il lui dit, « N'en avons pas !» Elle lui dit, « Ah, si l'on pouvait !» Il lui dit, « Mais on ne pourra jamais !» Elle lui dit, « Et si on demandait, ensemble, à la clinique ?» Il lui dit, « Surtout pas, je ne veux pas de monstre ici !» Thank you. Après la nouvelle vie, les retrouvailles, la nouveauté, Frédéric s'ennuie. Être enfermé les jours entiers avec sa femme, lorsqu'on a 14 ans, ce n'est pas facile. Les jours sont longs. Les nuits, on peut se débrouiller en jouant au lit, mais la journée, passer à se regarder dans le blanc des yeux, à se dire je t'aime à tout moment. Bien sûr, il ne lui dit rien et cache sa mélancolie, mais elle sent qu'il s'ennuie. Jouer aux dames toute la journée, manger, dire des bêtises, ça ne suffit pas. C'est difficile de vivre avec un mari qui est trop jeune, faut constamment l'amuser. À force de faire du sexe, on réussit à en être blasé. Donc elle se dit qu'il faut faire vite avant qu'il n'aille chercher ailleurs. Et mieux, il peut trouver bien mieux et ne plus revenir. Elle réfléchit et se dit qu'il vaudrait peut-être mieux, c'est qu'ils aillent vivre dans une grande ville. C'est mieux pour se distraire. Ils pourraient moins s'ennuyer, ils pourraient aller au spectacle. Paris, ce n'est plus bon pour elle, après ce qu'on a dit sur elle. Et puis, elle en veut aux gens du coin. Aller à l'étranger, oui, mais la langue et puis le dépaysement peut être trop fort pour Frédéric. Il peut se sentir étranger. Alors, en France, mais pas à Paris. Elle se demande quelle est la ville qui pourrait apporter du changement et puis des avantages comme à Paris. Elle réfléchit et se dit, pas Marseille, c'est une ville qui ressemble de moins en moins à une ville française. Lyon, oui, pourquoi pas. Surtout que Franblanc la rénove. Pourquoi pas, oui. Il y a des écoles, universités, des spectacles. C'est la ville des Pontia, toi, Dieppe. Et tout, pourquoi pas. En dînant, elle demande à Frédéric « Ça te dirait de vivre à Lyon ?» Il le regarde surpris. « Lyon, pourquoi ?» Elle lui dit « Parce que c'est une grande ville et qu'il y a beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que tu en dis ?» Il lui dit « Je ne sais pas, je connais pas. Les Lyonnais n'aiment pas les Parisiens et c'est pauvre là-bas. » Elle lui dit Nous allons y aller voir, et puis si ça nous plaît pas, il lui demande, y allons quand ? Elle lui dit, après-demain si tu veux. De toute façon, à Paris, nous ne faisons rien. Nous n'avons rien à faire. Ils ont pris la voiture pour Lyon. Ils sont partis tôt le matin pour arriver en fin de journée. Le ciel est bleu, il y a peu de circulation. Ils sont arrêtés à mi-chemin pour déjeuner. Le trajet est long parce que les routiers et les routes sont en mauvais état, que les travaux ne se terminent pas, que des camions bloquent la route à certains endroits en signe de grève, qu'il faut les contourner. Ils ont peu parlé parce que Frédéric a beaucoup dormi. La voiture le fait dormir. Ils sont arrivés à Lyon la nuit. La ville donne pas une bonne impression. Maisons en ruine, chaussées défoncées, SDF, poubelles qui débordent. Peu de lumière, voitures défoncées ou brûlé, magasin fermé, peu de grandes rouilles. Frédéric se demande, c'est ici que tu veux me faire vivre? Elle lui dit, te fais pas de soucis. Et puis Paris, c'est la même chose, à part certains quartiers, dont le nôtre. Le Rhône et la Saône déchargent des arbres morts, des voitures, des animaux de toutes sortes. C'est un décor de fin du monde, Lyon. Ils arrivent à trouver une petite rue calme qui monte sur les hauteurs de Fourvière. Là, il y a en face un pensionnat, un hôtel sur les pentes, 4 étoiles. Magnifique hôtel qui domine la ville. On voit toute la ville. C'est très beau. Et l'hôtel a une belle architecture, cossue, mais bien. Rue calme. Jean lui dit, tu vois, on a trouvé quelque chose. Elle prend la petite route privée qui mène à l'hôtel et va arrêter sa voiture devant l'entrée. Ils entrent dans l'hôtel. L'hôtel est meublé Renaissance Louis XIII. Pierres apparentes au mur, plafond à la française, vieux tableaux. Le hall est un grand hall. Elle va à la colle. Frédéric la suit. Un homme habillé en concierge, costume, veste verte, bouton, épaulette dorée, pantalon vert avec lisière dorée. Madame, elle lui dit, bonjour monsieur, c'est pour une chambre s'il vous plaît, pour deux personnes. La deuxième, c'est ce jeune homme, le concierge lui demande. Vous voulez la même chambre pour vous? Oui, c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai des papiers prouvant que c'est mon mari. Elle lui montre sa carte et celle de son mari. Il met la carte sur l'écran, demande à Jeanne. Mettez votre pouce, s'il vous plaît. Elle le met sur l'écran qui est inscrit exact. Il rentre sa carte et dit. Où jeune homme maintenant? Frédéric met son pouce sur l'écran qui marque exact. Il rend la carte à Frédéric. Le concierge demande, vous voulez une chambre pour combien de temps? Elle lui dit, une semaine, peut-être plus. Bien, je vous donne la chambre 21. Vous aurez la vue sur la ville. Il sonne. Vient à eux un jeune groupe de 15 ans, habillé de vert, comme le concierge. Le maître d'hôtel lui donne les clés et lui dit « Chambre 21 ». Le groom prend les valises et dit « Vous voulez bien me suivre ?» Il les mène vers l'ascenseur. Pour aller au deuxième étage. Arrivé au deuxième étage, ils suivent un couloir où se trouvent les murs sont des pierres à nu et des carreaux à terre. Il va ouvrir la chambre 21. Ils entrent. La chambre est très grande, avec un coin salon meublé Louis XIII. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur un balcon qui plonge sur Lyon. Le groupe demande, cela vous plaît-il? Elle lui dit, ce sera parfait, merci. Posez les bagages à terre, nous en occuperons. Le groupe lui montre la salle de bain. Voilà, marbre blanc. Et le groom les laisse. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Jean dit, eh bien, rangeons nos affaires. Une fois qu'ils aient rangé leurs affaires, Frédéric lui demande « Qu'allons-nous faire ?» Elle lui dit « Nous allons essayer de voir si nous pouvons vivre dans cette ville. » Frédéric lui dit « Elle m'a bien l'air délabrée. » Ils ont commandé leur dîner dans leur chambre. Puis comme ils étaient fatigués, se sont couchés. Depuis leur retrouvaille, ils couchent ensemble. Les premiers temps, ça a été un grand plaisir pour Frédéric de retrouver le corps de Jeanne. Mais maintenant, il commence à se lancer, ou plutôt à des difficultés. Ah, à Désiré. Il est vrai qu'il est très jeune et qu'il a besoin d'un peu d'inconscience. Comme les enfants, ils ont besoin de jouer, avoir des arrêts entre les choses sérieuses. Le lendemain, ils se sont réveillés tard et ont décidé de visiter la ville. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.